Une voie d'entrée et de sortie pour le peuple de Dieu. Lorsque vous voyagez dans le sud de l'Inde, vous serez peut-être surpris lorsque, au lieu de « goodbye », votre route vous dira « go and come », c'est-à-dire « allez et venez » pour vous dire au revoir. Ce qui vous dit, c'est qu'il espère non seulement que vous partez, mais aussi que vous reviendrez. C'est là un exemple d'une expression locale ou un idiome. Les anciens Hébreux avaient également des idiomes qui reflétaient leur façon de penser. En français, ces conventions linguistiques uniques sont connues sous le nom d'hébraïsme. Certains idiomes hébreux ont été intégrés dans l'usage courant du français comme « au coured » et « où coule le lait et le miel ». D'autres sont moins connus, comme celui que nous allons étudier en profondeur aujourd'hui. Tout comme l'expression indienne « go and come »,« allez et venez », le peuple hébreu avait une expression « sortir et entrer », qui signifiait en gros « vivre sa vie ». Quand on y réfléchit un peu, tout cela prend sens, car toute notre vie peut se résumer à nos « allées » et « venues ». Par exemple, lorsque vous vous levez le matin, où allez-vous? Au travail, à l'école, à l'épicerie. Et puis, lorsque vous avez terminé, où allez-vous? Vous rentrez chez vous. Ou si l'on considère une période plus longue, il y a des débuts et des fins à différentes phases de notre vie. Par exemple, commencer et terminer ses études universitaires, fonder une famille, ou voir ses enfants quitter la maison. Une deuxième signification biblique plus spécifique du terme hébreu « sortir et entrer » a trait à l'exercice du leadership, ce que E.W. Bullinger appelle les « fonctions officielles ». Là encore, il est utile d'y réfléchir à l'aide d'exemples. Par exemple, lorsque vous rentrez chez vous le soir, où allez-vous? Enseigner dans une communauté, suivre un cours, animer une réunion de direction, ou, à plus long terme, envisager d'assumer et de renoncer à la responsabilité d'une communauté, ou de travailler à plein temps dans le ministère, puis de prendre votre retraite. Pour résumer, l'expression « sortir et entrer » avait deux significations. Elle faisait référence à la vie en général, et elle faisait référence aux fonctions officielles ou à l'exercice du leadership. E.W. Bullinger identifie la première utilisation de cette expression comme un exemple de la figure de style synecdoque. Il souligne en outre que dans son application spécifique, il s'agit de remplacer des détails par des généralités. En d'autres termes, la vie en général ne se résume pas à sortir ou à entrer, mais en opposant ces deux actions contrastées, nous avons dans un microcosme une façon de parler de tout ce qui se trouve entre les deux. Sortir et entrer deviennent ainsi des repères pour décrire tout ce que nous faisons dans la vie. La deuxième utilisation de cette expression concerne les dirigeants qui exercent des fonctions particulières au sein de la congrégation. Un dirigeant n'est pas éternellement à la tête. Il y a un moment où un dirigeant entre en fonction et un moment où il quitte ses fonctions. Mais tant qu'il occupe ce poste, il doit s'occuper des affaires courantes de son poste, tout comme n'importe quelle autre personne doit s'occuper des affaires courantes de sa vie quotidienne. En parcourant la Bible aujourd'hui, nous verrons des exemples des deux utilisations de « aller » et « venir », en référence à la vie en général et en référence à l'exercice du leadership. Nous commencerons par un exemple d'utilisation de ce terme en référence à Dieu. Psaume 121. Dieu a toujours gardé la voie d'entrée et de sortie pour son peuple. Psaume 121, verset 1. Cantique de degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. Traduction littérale, dois-je lever les yeux vers les montagnes? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. En d'autres termes, toute votre vie, dès maintenant et à jamais. Comme son Père céleste, Jésus-Christ a accueilli son peuple et a pourvu à tous ses besoins. En tant que chemin, il était à la fois le chemin d'entrée et le chemin de sortie pour le peuple de Dieu. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » E.W. Bullinger, à propos de la figure de style endiatrice ou 3 pour 1, « Je suis le chemin, oui, le chemin véritable et vivant. Nul ne vient au Père que par moi. » Et en Jean 10, au verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » En tant que notre entrée et notre sortie du bercail, Jésus-Christ est à la fois notre porte vers la vie éternelle et le gardien de notre vie dans l'abondance. Quelle merveilleuse façon pour nous d'entrer et de sortir et de trouver des pâturages! Cependant, Jésus-Christ n'a pas toujours été physiquement présent sur terre, mais Dieu, à chaque époque, pourvu à ce que chaque génération ait des contemporains pour guider ceux qu'il a appelés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il suffit de voir comment Dieu a œuvré avec Moïse pour nommer Josué lorsque le moment était venu pour lui de passer le relais à un nouveau dirigeant. Deutéronome, nous serons en Deutéronome, chapitre 31. Deutéronome 31, 2. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Moïse n'était plus en mesure de sortir et d'entrer. Il ne pouvait plus remplir physiquement toutes les fonctions de sa charge. Mais Dieu était à l'œuvre en lui pour nommer Josué à ce poste de direction afin de faire sortir le peuple de Dieu et de les faire entrer. Nombre. Nous serons maintenant en Nombre, chapitre 27. Et on commencera par le verset 16. Nombre 27, 16. Que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établissent sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Ce serait dommage. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. » Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Et maintenant, pour le verset 21, je vais vous lire depuis la version David Martin. Et il se présentera devant Éléazar le sacrificateur, qui consultera pour lui par le jugement d'Urim devant l'Éternel. et à sa parole, ils sortiront, et à sa parole, ils entreront, lui et les enfants d'Israël avec lui et toute l'assemblée. Josué pouvait les guider grâce à sa parole, non pas parce qu'il était meilleur que les autres, mais parce qu'il avait fait de la parole de Dieu sa propre parole. De la même manière aujourd'hui, ceux qui exercent un ministère dans l'Église font simplement ce que Dieu les a appelés à faire avec sa parole, en se présentant devant la congrégation et en la guidant. Quelle joie, quel privilège et quel honneur de servir à un tel niveau à notre époque. Tout homme ou toute femme n'est pas prêt à diriger le peuple de Dieu lorsqu'il succède à un grand prédécesseur. Salomon, cependant, était un tel homme. Son père, David, avait dirigé sans crainte le peuple de Dieu lorsqu'il était jeune homme et avait été désigné par Saül pour sortir et rentrer à la tête du peuple. 1 Samuel, chapitre 18. Nous commençons au verset 12. 1 Samuel 18, 12. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il l'établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Plus tard, ce fut au tour de Salomon de se lever et de s'avancer. Tournez, s'il vous plaît, en 2 Chronique, chapitre 1. Écoutez la prière que Salomon adressa à Dieu lorsqu'il comprit qu'il serait celui qui devrait prendre la relève après le décès de son père David. Et il se montra humble devant Dieu dans cette situation qui l'humiliait. 2 Chronique, chapitre 1, verset 9. Je lirai encore une fois depuis la version Martin. Maintenant donc, ô Éternel Dieu, que la parole que tu as donnée à David mon père soit ferme, car tu m'as établi roi sur un peuple nombreux comme la poudre de la terre. Et donne-moi maintenant de la sagesse et de la connaissance, afin que je sorte et que j'entre devant ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple qui est si grand? Nul ne peut s'attribuer un tel honneur, mais ayant reçu une telle mission, un homme ou une femme se doit de l'accomplir. Dieu n'en attendrait pas moins de nous. Jusqu'à présent, nous avons examiné les occurrences de sortir et entrer dans l'Ancien Testament hébreu. Mais cette forme d'expression imagée n'a pas disparu avec l'avènement du monde hellénistique ou de langue grecque du Nouveau Testament. Nous en voyons une illustration frappante dans la période précédant la Pentecôte, au chapitre 1 des Actes. Les disciples étaient réunis pour choisir un remplaçant à Judas, qui était tombé et s'était pendu à une épée. Ce remplaçant devait répondre à des critères spécifiques. Regardez, acte 1, verset 21. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, ou, selon le grec, est entré et sorti au milieu de nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Tout comme Jésus lui-même était entré et sorti au milieu de ses disciples pendant son ministère terrestre, cet homme devait exercer son leadership en tant que témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Pour pouvoir être compté parmi les douze, il devait avoir vécu toute la gamme du ministère terrestre de Jésus depuis le jour de son baptême jusqu'à son ascension. Quelle qualification étonnante et particulière! Au moins deux hommes répondaient à ces critères et tous deux étaient extraordinaires à leur manière. Matthias et Joseph appelés Barsabbas. Celui qui serait choisi devrait, comme Jésus-Christ, entrer et sortir parmi les dirigeants, marcher, parler et fraterniser avec eux. Parfois, le leader que Dieu a choisi pour son peuple à un moment et à un endroit précis n'est pas celui que tout le monde avait déjà désigné dans son esprit. Saul de Tarse était un tel leader. Non seulement Saul était le candidat le moins probable, mais il inspirait également une peur immense plutôt que la confiance. En fait, lorsqu'ils ont appris sa conversion, les gens ne voulaient même pas croire qu'il était un disciple. Mais Barnabas l'a accueilli et l'a fait entrer dans leur présence. En acte 9, verset 26. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux. C'est la figure de style homéoptote, inflexion similaire dans le grec, dans Jérusalem, et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. C'est Barnabas qui a permis à Saul d'entrer dans le cœur et l'esprit du peuple de Dieu en le présentant hardiment, lui et ses références, aux apôtres eux-mêmes. Voici ce qu'il leur a dit. Qu'il avait vu le Seigneur, qu'il lui avait parlé et qu'il avait prêché franchement à Damas au nom de Jésus. Et une fois que les apôtres l'ont accepté, regardez ce qui s'est passé. Il allait et venait avec eux à Jérusalem, continuant à prêcher franchement au nom du Seigneur. Et non seulement cela, mais il parlait et disputait avec les hellénistes. Quel témoin intrépide il était devenu pour le Seigneur Jésus-Christ! Nous avons vu comment Dieu pourvoit à son peuple des dirigeants à différents moments et de différentes manières. Lorsque nous marchons dans les voies de Dieu et en communion avec nos frères, Dieu veille à ce que chaque aspect de notre vie individuelle soit également béni. Selon Deutéronome, chapitre 28, commençant en verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Élevons-nous et aidons-nous les uns les autres afin qu'en tant que communauté ecclésiale, nous puissions savoir d'où nous venons, où nous allons et toutes les bonnes choses qui nous réservent en chemin. Laissons Dieu nous montrer comment entrer et sortir, afin que nous puissions suivre son chemin avec certitude.